Pauvre sac. Les bois deviennent un peu plus clairsemés et vous sentez une fraîcheur saline emplir l'air comme vous n'en aviez jamais perçu à Varna. Mais la mer marmoréenne n'est pas encore suffisamment proche et la seule rumeur que vous percevez est le chant continu des cigales entrecoupé du piaillement des choucas et des grives. Vous débouchez sur une clairière recouverte de sable fin. Vous progressez de colline boisée en colline boisée, espérant à chaque sommet voir la mer, mais votre attente n'est toujours pas récompensée à mesure que le soir tombe. Les premières étoiles, à demi masquées par des nuages fuyant vers le nord, piquent le ciel nocturne alors que vous gravissez une énième colline hérissée de cyprès et d'eucalyptus. L'obscurité se fait totale, et quelques grillons se taisent alors qu'un hurlement de loup s'élève, repris de concert par la meute. La nuit s'annonce prometteuse. Vous dressez un campement de fortune au sommet de cette colline. Vous dégagez le sol et ménagez un petit espace confortable sur un tapis d'épines de pin. Toute votre vie n'a été que des brouilles dans la cité de Varna, mais apparemment, vous vous faites vite à la vie en plein air. Allongé, vous vous abandonnez à la clarté de quelques étoiles et ces pensées légères sont vite effacées lorsque retentit un nouveau hurlement de loup, cette fois-ci terriblement plus proche. Vous rassemblez d'autres épines de pin et du bois sec dans l'espoir de vous protéger avec un feu rassurant. Vous faites le signe du sort d'étincelle et une lame vient faire crépiter les épines, les pommes de pin sèches et les feuilles de laurier sauce qui se tordent en libérant une fragrance. Vous alimentez ce feu rassurant qui projette d'inquiétantes ombres aux alentours, mais qui tient à distance de nombreux animaux sauvages que vous entendez contourner votre campement. Vous assurant que le feu est bien alimenté pour la nuit, vous vous abandonnez à un sommeil sûr et bienheureux. Le soleil se lève. Vous rassemblez vos affaires en bâillant et en vous étirant, et restez stupéfait quand vous levez les yeux vers le nord. De haut de votre colline, vous contemplez bouche bée la blancheur argentée de la côte de Gallibolu, flirtant avec la mer marmoréenne. Face à vous, les derniers arbres dans la forêt de Gallibolu dansent sous la brise, pour laisser place à une plage de sable où se dressent les colonnes de quelques ruines antiques. Puis ce sont les eaux turquoises, à l'infini, où se dressent ici et là d'insolites collines couronnées d'oiseaux blancs et d'arbres tordus. D'ici, vous distinguez d'immenses créatures marines, serpents et poissons bondir hors de l'eau pour replonger dans des vagues titanesques. Ce spectacle fascinant vous angoisse et vous séduit à la fois. De toute façon, c'est votre chemin. Ainsi, vous entamez la distance des dernières collines de la forêt de Bolaïr. Vous foulez le sable blanc au reflet argenté de la plage et trempez vos mains dans le ressac, inspirant à plein poumon l'air salin de la mer. Un sifflement retentit sur le côté. Une flèche vient de bondir sur l'autel et se ficher entre deux dalles. Sur la grève en contrebas, vous remarquez l'épave d'un galion à moitié émergé. De sa coque éventrée, un archer squelette bande son arc et décoche à nouveau, et vous prenez abri derrière l'autel. Vous bondissez par-dessus l'autel et, dégainant votre arme, vous courez sur le sable à l'assaut de votre agresseur. Une flèche vous frôle l'épaule et vous prenez tout de suite conscience que vous êtes trop loin. Trop loin pour arriver au corps à corps de votre adversaire sans qu'il ait le temps de décrocher une dernière flèche, assurément fatale vu la distance qui vous séparera alors. Vous estimez aussi, rapidement, qu'il n'y a plus de marche arrière possible. La plage est hideusement vide autour de vous. Résolu, vous continuez donc de courir vers cette flèche qui sort alors du carquois du squelette, qui vient ensuite se poser sur le fil de l'arc pendant que vous courez de toutes vos forces, pour enfin se tendre droit vers vous. Le squelette n'a pas beaucoup de temps pour viser, mais cela ne l'empêche pas de décocher la flèche qui vient voler droit. Quelque chose se brise en vous, et vous fermez instantanément les yeux, le bras levé, voulant échapper à l'image imminente de votre mort. Aveugle, votre larme coupe quelque chose de dur et vous sentez des bruits d'os s'effondrer devant vous. Vous hésitez à rouvrir les yeux au doutant que la vision d'une flèche plantée dans votre corps ne vous fasse perdre conscience à jamais. Déplissez lentement les yeux et constatez qu'aucune flèche ne vous a transpercé et soufflé de soulagement. Ses os brisés à vos pieds, la flamme de vie qui animait le squelette disparaît, vous l'espérez, pour toujours. Dans une bourse attachée au cou de votre ennemi, vous trouvez une chevalière gravée d'un renard. Longer les côtes sinueuses de Gallibolu est un enchantement. Alternant de longues étendues de sable argenté bordant une mer transparente avec l'ombrage des premiers arbres de la forêt. Sous le chant des cigales rythmées par le ressac des eaux de la mer marmoréenne, vous repartez vers le nord-est. À une centaine de mètres du rivage, au cœur d'une partie de la mer plus tranquille, vous remarquez un petit affleurement rocheux sculpté supportant un objet qui brille au soleil. Vous faites quelques pas dans l'eau. En fait, la mer est peu profonde ici et le fond marin aisé à fouler, car constitué de sable tassé en petites dunes par le ressac. De petits poissons tournent autour de vos jambes. Alors que vous approchez le promontoire émergeant des eaux, une armée de soldats surgit brusquement des flots et forme une allée jusqu'au rocher. Vêtus comme des hoplites, armés d'un bouclier rond et d'un javelot, les grettes de leurs casques se balançant dans la brise. Ce ne sont pas vraiment des soldats, mais des êtres issus de la mer, constitués entièrement d'eau salée. Parfois, des poissons sautent hors d'eux pour replonger dans les vagues. Immobiles, leurs javelots dressés entourent votre chemin. Continuons votre progression. Le premier hoplite se dresse alors sur votre chemin, javelot en arrière. Vous faites le signe mystique du sortilège de parapluie, et l'eau s'écarte sous vos pieds jusqu'à ce que vous fouliez un sable sec au milieu de la mer. Vous avancez à nouveau vers le promontoire, et un à un, javelot en avant, les hoplites d'eau salée se jettent sur vous pour se dissoudre contre votre protection. Ils renaissent plus loin depuis les flots et chargent à nouveau, en vain. Le promontoire est un roc d'obsidienne sculpté en forme d'étoile de mer sur lequel est posé un coffre brillant soudé à la roche. Ouvrant le coffre alors que les assauts rageurs de l'impuissante armée des eaux se poursuivent inlassablement, vous découvrez avec fascination un lourd pendentif en or incrusté de pierres précieuses représentant une étoile à 5 branches. Vous rangez cette découverte dans votre sac. Votre route oblique vers le centre de la péninsule de Gallibolu, longeant une large rivière que vous ne jugez pas prudent de traverser à la nage malgré son flot tranquille. Avec le soleil déclinant sur la frondaison et les premiers insectes de nuit venant voleter autour de vous, vous remarquez un pont couvert franchissant la rivière. Après vous être assuré que les planches de bois pouvaient bien supporter votre poids, vous les traversez pour arriver sur une zone herbue où la forêt ne reprend ses droits que loin à l'est sur l'horizon. Plus que jamais, alors que de lourds nuages tonnent et chargent l'atmosphère d'électricité, vous avez l'impression d'être dans le sombre pays, ou plutôt dans cet empire déchu que fut autrefois l'Osmanli. À quelques lieues hors du chemin, au-delà de champs en friche depuis des siècles, vous apercevez une petite habitation. Des nuées de corbeaux s'envolent à mesure que vous traversez les champs de blé sauvages envahis par les herbes vivaces et quelques jeunes arbres tordus. L'habitation est une ancienne ferme aux murs blancs et aux toits en chaume, où le temps a creusé de grands trous. Les premières gouttes lourdes d'un orage qui s'annonce terrible font plier les herbes et lissent la paille qui recouvre les trous dans les murs. Une porte battante donne sur un intérieur rendu misérable par le temps et l'abandon. Quelques étagères ornées de vaisselle brisée, un âtre obstrué par les ans, des meubles à moitié réduits en poussière, un sol recouvert de joncs séchés. Mais alors que l'orage crève les cieux, vous n'êtes pas mécontent d'avoir un toit, fut-il percé ça et là, et vous organisez rapidement l'intérieur pour faire fuir l'eau au dehors. Vous tracez le sort d'étincelles et votre flamme embrase rapidement votre petit foyer. Un feu rassérénant crépite et vient combattre la présence oppressante des éléments qui se déchaînent au dehors. La fumée odorante des joncs et de la paille réchauffe votre refuge. Et bien que la situation ne soit pas extrêmement brillante, ce confort relatif vous offre un tel contraste avec la tempête que vous vous sentez rassuré. L'éclairage des flammes met à jour un gros ouvrage au-dessus d'une armoire effondrée. Il s'agit d'un in-folio, un grand livre recouvert de cuir vert épais et scellé par un verrou rouillé par les ans. L'état des pages vous désespère un peu d'en tirer quelque chose, le tout s'étant solidifié comme un bloc de pâte molle avec l'humidité des lieux. La serrure est solidement fermée et maintient les pages attachées. Vous n'avez malheureusement rien sous la main pour l'ouvrir. Vous reposez alors le bouquin là où vous l'avez trouvé, au milieu de cette épave boisée, un ancien navire de savoir aujourd'hui déchu. Vous vous blottissez près de votre feu, et après votre longue journée de marche et d'aventure, le sommeil vous gagne rapidement. Une nuit reposante se passe, même si vous êtes souvent réveillé par de nombreux coups de tonnerre, tels des explosions terribles. Le matin arrive et chasse les dernières forces de l'orage. Rassemblant vos affaires, vous reprenez la route sous un ciel toujours plombé, foulant un chemin de boue qui traverse des champs partiellement brûlés. La route, large, tracée d'ornières maintenant anciennes, se divise en deux à l'approche d'une nouvelle forêt. Vous considérez vos options alors que de petits papillons argentés volaient autour de vous et que le soleil perce enfin la couche des nuages. Vous avez la possibilité de poursuivre votre route vers Sénacalé, soit en allant vers le nord, au 3.2, sur un chemin qui doit probablement longer la côte, soit en traversant la forêt tout droit au 3.1.